Bonjour à tous, merci d'écouter Fréquence Mistral, une émission spéciale dans le cadre de l'édition 2020 des correspondances de Manosque, animée par François Malabave. Bonjour François.
Bonjour Olivier, bonjour à tous. Et oui, c'est la troisième émission de cette édition. Voilà, j'y arrive, des correspondances, et nous sommes plongés évidemment au cœur de ce festival littéraire à Manosque. Et pour cette émission, nous allons parler musique, nous allons parler bien sûr littérature et nous parlerons aussi de peinture avec nos invités. Et tout de suite, nous entendons le directeur des correspondances, Olivier Chaudançon, nous parler du programme de cette belle journée qui, pour l'instant, est ensoleillée. Olivier Chaudançon, vendredi 25 septembre, un très beau programme.
Apéro littéraire, comme à l'accoutumée, à 11h, qui va réunir Clémentine Mélois et Hervé Le Tellier. Un rituel des correspondances de plus, c'est celui du karaoké littéraire, ce moment très joyeux où des jeunes montent sur scène pour nous convaincre en quelques minutes de leur enthousiasme de lecture. Et puis, d'un rituel à l'autre, 14h30, les siestes acoustiques et littéraires de Bastien Lallemand, ses amis musiciens et des auteurs du festival. Après-midi très chargé, à 15h, avec un dialogue entre Nedhar Djawadi et Gauze, deux auteurs qui sont déjà venus l'un et l'autre une fois et qui ont marqué de leur parole et de leur présence. À 15h également, François Bégodeau, pour un livre très réussi et très troublant qui démarre en nous emmenant à Royan avec un jeune couple qui a absolument toutes les qualités. Ils sont beaux, ils sont jeunes, ils sont riches, ils ont de jeunes enfants adorables, etc. Et petit à petit, ça va partir dans un drôle de truc. On voit pas trop ce qui dérape, mais ça dérape, c'est évident. Enfin, vous verrez, c'est toute la force de ce livre-là. À 16h30, Fabrice Caro, le dessinateur qui nous fait hurler de rire en général, et qui est également écrivain et romancier, qui vient en tant que romancier justement, et qui nous fait aussi beaucoup rire, sera en dialogue avec Colombe Bonsaine. 16h30 toujours, Florence Sévos, ou encore, troisième choix à cet horaire-là, un auteur que les manosquins connaissent bien, Miguel Bonnefoy, un ancien résident, qui vient pour son nouveau livre qui s'appelle Héritage, et on retrouve toute la verve de Miguel Bonnefoy et son talent de nous faire aujourd'hui des romans à la sud-américaine avec toute la légende que ça comporte. 18h, une autre ancienne résidente, décidément on en a beaucoup, mais ça veut dire que c'est bon signe, le festival a semé des graines qui prennent de l'ampleur. Alice Zénitaire qui vient nous parler de Comme un empire dans un empire, son nouveau livre. Ou alors, on pourra faire le choix d'un autre résident. Là, il va vraiment falloir être difficile et se tenir à un choix. On pourra pas faire les deux. C'est Pierre Ducrozet qui va dialoguer avec Hervé Le Tellier. Eduardo Fernando Varela, argentin. On a peu d'auteurs étrangers cette année pour les contraintes que nous savons. Mais lui était en France depuis déjà quelque temps. Donc, on a la chance de l'avoir. Un magnifique livre aux éditions Métellier. Ou enfin, dernier choix de 18h, Florent Marchais, on le connaît bien comme chanteur, il vient ici pour son premier livre, premier roman, très réussi, il en fera une lecture musicale, ça il peut pas s'en empêcher, mais également avec un jeune dessinateur, Elliot Royer, donc lecture musicale dessinée. La soirée au théâtre Jean Le Bleu, à 21h, alors là, c'est un roman contemporain qui va être lu, un roman de Lise Charles, La Demoiselle à cœur ouvert. Il vient d'être publié et c'est en quelque sorte Les Liaisons dangereuses version contemporaine. C'est féroce, c'est mordant, c'est drôle, c'est ironique, c'est prenant. Ça va être lu par deux grandes voix, Anna Mouglalis et Michel Esco. Et nous terminerons la soirée, toujours au théâtre Jean Le Bleu, avec un concert littéraire de Raphaël Lanader, la chanteuse que l'on connaît également sous le nom Elle, qui viendra nous faire entendre ses chansons évidemment, mais aussi des textes qu'elle aime.
Une belle journée donc qui s'annonce sur Manosque avec les correspondances et vous le savez, dans le sud de la France et dans le sud de l'Europe, il y a une religion très particulière, c'est la sieste. La sieste qui est ancrée dans la personnalité et notamment des Méditerranéens et plus particulièrement des Provençaux. Et depuis quelques années, eh bien, il y a une sieste un petit peu particulière qui se déroule à Manosque. Et je crois même que c'est la 10e année qu'on fête l'arrivée des siestes littéraires. À nos côtés, deux des siestards fidèles des correspondances de Manosque, autrement dit J.P. Nataf et Bastien Lallemand. Bonjour à tous les deux.
Bonjour. Bonjour.
Bastien, c'est bien ça? Ça fait 10 ans que vous venez pour
Alors,
faire la sieste?
Ça fait dix ans que j'ai initié les siestes acoustiques et qui sont devenues aussi siestes musicales et littéraires. Ça fait moins d'années que ça que je viens à Manosque, mais je pense qu'on a 8e édition à peu près.
Avec un public fidèle, hein, mais c'est difficile parce que la jauge est contenue.
C'est des petites jauges, évidemment, oui. Puisque c'est des concerts complètement acoustiques. Donc voilà, on est au plus près des gens. Et puis là, avec les conditions particulières cette année, alors on essaye de... Enfin, on respecte quand même les distances entre les gens, entre eux, et puis du chanteur au...
C'est quand même plus facile au public. De réunir des siestards que des fêtards.
Oui. Avec JP, il y a une espèce de gourmandise de la part des musiciens de venir à Manosque pour faire ces siestes particulières.
Ah bah oui, nous c'est une petite drogue. Moi, il était pas complètement acquis que je vienne parce que justement le planning de l'année a été chamboulé par les événements. Mais j'ai fait des pieds et des mains pour pouvoir rejoindre la caravane parce que c'est un moment particulier pour nous. En plus, on fait quand même régulièrement des siestes pendant l'année, mais rester 4 jours au même endroit, ensemble et tout ça, il y a le plaisir de préparer la sieste.
Et puis à Manosque, vous êtes quasiment de Manosquin maintenant, hein, depuis le temps que vous venez. Tous les deux, vous êtes fidèles, hein, aussi bien Bastien, mais JP aussi. Vous menez tous les deux vos carrières personnelles, professionnelles. Est-ce que le Covid, le confinement, vous a chamboulé le quotidien?
Oh, c'est peu de le dire, oui.
Ouais,
oui, pour le moment.
Dans quel sens?
Je sais pas, moi me concernant, j'ai un groupe qui s'appelle Les Innocents et on était en tournée, il nous restait 40 dates qui sont devenues 5.
Oui, donc
5 dont on n'est pas sûr encore, hein, parce que ça peut encore changer d'ici demain. Donc, non, globalement, on ne travaille plus, on est à l'arrêt. Hein.
Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On travaille en studio, on travaille seul, on écrit?
Chacun fait comme il peut. Hein. Je sais, le 11, je sais pas à qui il s'adresse, si je dois parler pour tous mes amis musiciens. Ceux qui avaient des projets en cours, qui sont ce qu'on appelle les projets de confinement habituels pour des musiciens, c'est-à-dire effectivement quand on est en écriture ou en studio, je pense, peuvent effectivement donner libre cours et continuer ce projet-là. Ceux qui en avaient pas, c'est un moment où c'est assez difficile d'aller voir un producteur et lui demander de l'argent pour faire un projet, parce que tout le secteur est quand même à l'arrêt, donc c'est un peu facile, enfin c'est pas aussi facile que ça de se dire tiens on peut pas jouer donc on va aller faire un disque parce qu'il faut de l'argent pour faire un disque, il faut des partenaires, donc ce qu'on peut faire c'est écrire éventuellement.
D'où l'intérêt de pouvoir venir à Manosque, de faire une petite représentation pour une... Il y a combien, 70 personnes maximum?
60, je crois.
60, oui. Mais avec la possibilité aussi à l'extérieur d'avoir un écran vidéo. Hein.
C'est ça.
C'est toujours ça. Avec cette année en plus, cerise sur le gâteau, l'exposition des 100 titres de Clémentine Mélois dans la salle à côté et qui n'inspire pas à la tristesse, hein, d'après ce
non,
que je crois savoir.
Elle est venue hier à la sieste aussi.
Alors justement, comment ça s'est passé hier? Vous aviez aussi bien Colombe Bonsen que Clémentine Mélois, que j'avais eu le plaisir d'accueillir ici même. Elles se sont bien comportées.
Ah, c'était parfait, les lectures étaient magnifiques. Donc pour les auditeurs, le principe c'est de faire se croiser des chansons, des musiques et des extraits des livres des auteurs qui viennent les lire. Et on essaye de créer un programme comme ça qui alterne les propositions des uns des autres. C'est une espèce de grand panier où chacun apporte ce qu'il a le plus envie de partager à ce moment-là. Et donc effectivement, hier c'était assez magique, oui.
Ouais, avec deux.
Ça le sera certainement tout autant aujourd'hui, demain et après-demain.
Aujourd'hui, qui vous avez dans votre
Mathilde
deux as?
Aujourd'hui, Mathilde, c'est Mathilde Forger. Ouais.
C'est bien aussi. Alors, c'est très curieux parce que, cette année, Maëva Lebert n'est pas parmi vous, mais.
Pour d'heureuses raisons.
Très bien. On s'en doutait un petit peu, donc c'est super.
Non, parce que ça aurait pu. Voilà, c'est une année où on peut.
Oui. Voilà. Donc il y a quand même 4 garçons et qui accueillent
5 garçons.
5 garçons, ouais. Et qui accueillent des jeunes filles et des auteurs de talent, comme Clémentine Mélois, Colombe Bonsaine ou Mathilde Forger. C'est un petit peu l'avenir d'une certaine littérature, une littérature qui se prend pas le chou, hein, en plus, en pour parler tout simplement. Et donc ça, c'est une bonne chose. Bastien, lorsque vous faites un programme, vous le faites quand et comment ça se passe? Il y a un patchwork, en fait.
En fait, on le fait, l'idée, c'est de le faire le plus à proximité de la représentation. C'est-à-dire, on se retrouve 2 heures avant et on va échanger sur qui veut faire quoi, quand, comment. Et surtout, l'idée, c'est de le faire le moins préparé possible. Qu'il demeure une grande place à l'improvisation entre les textes, les chansons. Et donc, le programme est établi juste avant.
Et puis à moins d'avoir lu tous les livres, il y a des auteurs qu'on découvre, on les rencontre, leur livre vient de sortir. Donc c'est vrai que c'est un peu aussi en fonction de ce qu'ils vont proposer, quel extrait de leur livre ils ont envie de proposer, qu'on peut rebondir nous aussi et dire « Ah ben voilà, il arrive que Bastien dise « Tiens, moi j'ai une thématique qui épouse complètement ce paragraphe que tu vas lire ». Donc comme on est assez réactif et on se connaît assez bien comme musicien, c'est assez agréable de 10 minutes avant de pouvoir dire bah voilà, je ne sais pas, tu parles des migrants dans ce chapitre-là, bah j'ai une chanson qui peut faire écho.
Comment ça se passe à la fin de vos siestes littéraires? Vous avez des retours du public? Oui, ça je sais, j'ai vérifié. Est-ce que vous avez des retours du public justement qui viennent vous voir et vous dire ah on a passé un moment assez magique quoi?
Non.
Non, oui. Ils sont à ce point impolis à Manosque, c'est pas possible.
Non, les gens apprécient en général, je pense. L'avantage, je trouve, par rapport à un concert, c'est que si vous allez voir un concert ou une pièce de théâtre ou un film, vous êtes obligé d'avoir aimé, on va dire, l'objet qui ramène quand même une part d'ego de la personne qui l'a créé. Donc si on va voir Johnny Hallyday, si on va le voir, on dit le concert était formidable.
Ouais, mais
il est évident
fini,
qu'on
ça.
A aimé les chansons de Johnny Hallyday, ouais. Et le personnage. Nous, le truc, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui se dilue, c'est qu'on crée une ambiance, oui. C'est comme la radio, en fait.
Oui.
On crée pendant une heure une ambiance, donc les gens viennent pas forcément directement vous dire « Ah, j'ai adoré votre chanson », ils disent « Ah, j'ai passé un moment incroyable, comme quand on sort chez l'ostéo, quoi ». Et ce truc-là est assez agréable, de réussir à diluer les parts d'ego qui sont quand même non négligeables chez des chanteurs comme nous. Même nous, on le sent, parce que c'est vrai qu'on est au service les uns des autres, et puis on est surtout au service d'une heure. Qu'il faut qu'on arrive à créer.
Alors justement, vous parliez d'ego et des artistes. Il y a Babix et Albin de la Simone qui sont aussi des artistes confirmés avec vous. Il y a François Lasserre aussi. Vous êtes imperméable, plutôt perméable à vos collaborateurs quand vous êtes dans les siestes littéraires. Comment ça se passe? Il y a de l'échange?
Ah ben, il y a plus que de l'échange. C'est du libertinage assumé.
Excusez-moi de poser des questions extrêmement naïves.
Tu le dis très bien, Mathieu.
Non, mais c'est même pour ça, je pense, que ça fait 10 ans qu'on fait des siestes. C'est l'occasion de se voir. Je pense, là, il se trouve que, en général, pour Manosque, Bastien a réfléchi en amont et on est souvent proche d'une dream team, vraiment. Mais aussi, c'est le plaisir. Je sais pas, on n'a pas beaucoup l'occasion, on n'habite pas dans les mêmes villes. On est très pris et on n'a pas beaucoup l'occasion de se voir, par exemple, là tous les 5. Bon, François est un peu le nouveau dans la bande me concernant, mais David, Albin, Bastien et moi, on se verrait bien pour dîner ensemble déjà, mais on n'a pas beaucoup d'occasion. Donc il y a quand même le plaisir déjà de retrouver les potes, quoi.
Manox qui sert de synthèse en quelque sorte.
Ouais, puis on partage un moment assez magique, hein, quand on arrive à faire une sieste, enfin comme celle d'hier par exemple. Ça nous nourrit terriblement, quoi. On va rentrer à Paris encore plus costaud qu'on est arrivé.
C'est bien, super. Et est-ce que vous avez le temps aussi de pouvoir profiter tous les 5 du festival et d'avoir des rencontres avec des auteurs, d'autres artistes?
Personnellement, moi je vais écouter les rencontres en ville quand je peux, les spectacles du soir. C'est vraiment l'occasion. Et puis quand je viens à Manosque, je repars avec une tonne de bouquins et puis... Ça me fait l'hiver, quoi.
C'est bien. Il y a beaucoup de gens sur Manosque qui commencent à vous connaître et à vous apprécier particulièrement. On vous croise dans la rue, on peut vous alpaguer sans aucun problème. C'est quelque chose qui vous change de votre quotidien parisien, entre guillemets? JP.
Moi, j'habite dans un petit village dans Paris, quoi. C'est vraiment aussi une petite butée comme ça au-dessus de Belleville. Donc, je suis habitué à cette vie de. Il se passe des semaines et des semaines sans que je prenne le métro pour changer de quartier. Donc, si je vais acheter du lait, en général, ça me prend 1h30 et je bois 3 cafés. Donc non, ça c'est quelque chose que je chéris, justement. Le fait de donner un petit. C'est agréable de pouvoir se déplacer comme ça, d'aller voir un spectacle, d'aller boire un coup, de préparer notre sieste, le soir de. Enfin, je sais pas, moi je trouve que c'est devenu un petit chez nous de fin d'été, moi j'appelle ça.
C'est bien aussi parce que c'est la réalité et en même temps, les manosquins et les festivaliers en général, puisqu'il n'y a pas que les manosquins, apprécient particulièrement cette proximité avec aussi bien les artistes que les auteurs, hein, pour pouvoir discuter. Tout à l'heure, on va recevoir François Bonne, il va nous en parler puisqu'il a été en résidence ici même, donc il est presque manosquin. Et vous-même aussi, vous êtes presque manosquin puisque vous venez régulièrement pour passer ce temps très particulier des siestes littéraires. C'est à quelle heure tout à l'heure, Bastien ?
14h30.
Ne soyez pas en retard, parce qu'après les portes sont fermées, les portes sont closes, les paupières aussi éventuellement, pour cette sieste.
On encourage les paupières à se fermer.
C'est pas difficile de jouer presque allongé, JP, comment ça se passe ? Comment
Non, en termes de ce qu'on propose nous, on a autant de trac, voire quelquefois plus, que on n'est pas protégé par le micro, la sono, l'estrade et tout ça, donc c'est vrai que c'est quelquefois un peu à fleur de peau comme ça. C'est pour ça que c'est vraiment bien de le faire entre copains.
Un bel exercice.
Bien, il y a quand même quelque chose. On fabrique quelque chose collectivement qui n'a pas encore existé en général. C'est-à-dire, même si c'est une chanson qui est écrite de Bastien ou d'Albin, c'est une version qu'on n'a jamais faite.
Alors justement, on va peut-être quitter cette, vous laisser partir parce que vous avez beaucoup d'activités. Olivier, à côté de vous sur la régie, il y a un disque de Bastien Lallemand. Il y a une chanson, moi Bastien, que j'adore dans vos disques. Vous le savez, c'est Une vie de chien, parce que surtout en ce moment où on parle beaucoup de droit de l'animal. Donc ça tombe bien dans cette ambiance particulière. Donc Olivier, le temps que vous puissiez caler ce morceau dans la machine, parce qu'on joue à l'ancienne nous ici, hein, on a des machines, le MP3 ça va bien un moment, mais au bout d'un moment on préfère autre chose. Bastien, donc Une vie de chien, c'était il y a combien de temps déjà?
C'est une chanson qui est, j'ai enregistré cet album en 2007, donc
c'est Le Verger, hein.
Ouais, Le Verger, cet album est sorti en 2009-10, mais voilà, c'est
et juste après son nez Les siestes littéraires.
Exactement.
Voilà.
Pour accompagner cet album.
Merci à tous les deux. Bon séjour à Manosque et bonne sieste. Et puis bien sûr, merci encore de toute l'activité culturelle et sympathique que vous avez autour de vos créations. Et à très bientôt.
Bah, à bientôt. Ouais.
Dehors, la chienne attendait que le maître vînt. Un vieux à la peau tannée, l'homme aux bottes, l'homme craint, de qui pleuvaient des coups soudain. Dehors, la chienne attendait sous une pluie de chiens. Le vieil homme à le beau fumier, l'homme aux bottes, l'homme craint. De qui pleuvaient des coups sans fin. De qui pleuvaient des coups sans fin. Dans sa masure, sombre masure, l'homme n'entend plus son chien. Non, ça pour sûr, cette pourriture méritait son destin. La chienne attendait que le maître vînt. Un vieux à la peau cramée, l'homme aux bottes, l'homme chien, de qui pleuvaient des coups sans fin. Et là, sur le vieux parquet, la gueule ouverte, le vieux à la peau trouée, l'homme aux bottes, l'homme vain, de qui jamais ne viendrait plus rien, de qui jamais ne viendrait plus rien. Dans sa masure, sombre masure, l'homme n'entend plus son chien. Non, ça pour sûr, cette pourriture n'héritait pas à son chien. Quelle vie de chien.
Bastien Lallemand, dans ses œuvres Une vie de chien, et Bastien évidemment qui est présent lors des siestes pour le Festival des Correspondances. On est en direct du Festival des Correspondances. J'ai le grand plaisir d'accueillir Sabine Copeland. Bonjour Sabine.
Bonjour François.
On vous connaît bien sur notre antenne parce que vous êtes la présidente du comité de jumelage Manosque-Leinfelden-Echterdingen. J'ai appris à bien le dire.
Bravo.
Merci. Et tout simplement, vous êtes présente dans cette émission parce que vous proposez une exposition remarquable de peinture, très exactement d'aquarelle, à la salle Denis Valveyran, à côté de la Fondation Carzou à Manosque. Et c'est une coproduction entre l'Artothèque, le comité de jumelage et également vos amis de Leinfelden.
Oui, et aussi avec la Fondation Carzou, voilà,
oui,
qui nous accueille dans ce lieu. Oui, nous sommes très très enchantés que ça a pu avoir lieu, parce que nos artistes avaient des restrictions, et après, quand elles rentrent, elles doivent faire le test, et puisque l'Allemagne a déclaré la Provence zone rouge, donc, elles ont bravé, c'est en fait une petite interdiction de venir, et nous sommes très heureuses de les pouvoir accueillir. C'est Katja Goldbeck-Hertz qui a écrit l'histoire sur l'ours polaire, qui est émerveillée par les lumières, par tout ce qui vit. C'est une très très, et elle a coopéré avec une peintre de Leinfelden. Les deux se connaissent depuis longtemps et c'était un projet très cher à elle. Donc l'écrivaine a pu venir, elle est accompagnée d'une autre peintre que nous avons accueilli déjà plusieurs fois, Heide Gritzauer. Et c'est en fait un échange d'artistes entre nos deux villes qui se fait depuis 4 ans. Les artistes françaises ont été accueillis plusieurs fois au printemps à Leinfelden pour des expositions, et nous avons l'habitude de les accueillir pour les correspondances. Voilà, nous sommes très très ravis, et elles ont accueilli déjà plusieurs classes hier.
Oui, avec des scolaires,
oui,
effectivement.
Voilà, de la Ponsonne. Et ces classes-là sont venues après à l'écritoire à la Maison de l'Europe sur un conte des frères Grimm qui s'appelle Jean le Chanceux, Hans im Glück. Voilà, donc elles ont eu beaucoup de culture allemande hier. On leur a appris aussi quelques mots au passage, et c'est un échange très très fructueux avec eux. Voilà, donc d'un coup les petits ont vu l'émerveillement de l'ours polaire, et ont discuté aussi un peu sur le climat, hein, la banquise qu'ils font. Et de l'autre côté, dans le conte de Sir Jean le Chanceux, c'est la question du bonheur. Alors Jean, qui a au début de l'histoire gagné de l'or, et va rentrer, mais échanger ça petit à petit jusqu'à ce qu'il ne reste que des pierres. Alors d'abord un cheval, après une vache, un cochon, une oie. et finalement des pierres qu'il échange toujours, et il est toujours ravi de ces échanges. D'un côté, il y a des élèves qui l'ont trouvé très naïf, il se fait arnaquer, ils ont dit, mais il y en a eu aussi qui ont dit, mais il est toujours heureux. Voilà, donc, est-ce que l'argent fait le bonheur?
La question est posée.
Voilà.
Sabine, revenons à l'exposition qui est à la salle Denis Valvérane. Ces photos et ces photos, ces peintures, ces aquarelles sont magnifiques et elles traduisent une certaine poésie parce que un ours qui est sensible au charme des étoiles, est-ce que ça existe? Peu importe. En tout cas, c'est de la poésie.
Peut-être,
peut-être, oui, qui sait. Oui. Mais en ce moment, peut-être qu'ils ont d'autres problèmes que les étoiles, les ours polaires.
Oui. Alors, ce qui est d'abord, le texte aussi est très poétique, c'est très joliment écrit. Et l'ours polaire qui rencontre, en quelque sorte, les étoiles, comme il brille, et la lumière. Également, une petite danseuse qu'il a sur son nez, qu'il faut trouver. Je vous conseille d'aller voir et de vous émerveiller également de ces très beaux aquarelles qui sont, il y a le bleu et le jaune
et le
dominant
blanc.
Et le blanc.
Et le blanc, bien sûr, puisqu'on est dans la banquise, la banquise. Sabine, c'est aussi, ce qui est remarquable aussi, c'est la coopération que vous avez avec toutes ces entreprises particulières que sont l'Artothèque, le comité de jumelage, la Fondation Carzou. Vous tirez tous, en fait, dans le même sens.
Oui, et en fait, c'est un peu comme chez les siestards.
Oui.
Pour nous, pendant les correspondances, c'est un moment très important de rencontre. Rencontre entre les différents acteurs manosquins, mais avec Leinfelden et les écoliers, par exemple, qui apprennent à rencontrer l'international et l'émerveillement.
Et en même temps, ils apprennent la langue allemande aussi, ce qui est pas plus mal, surtout en ce moment où on a besoin de dynamiser un petit peu l'apprentissage des langues étrangères,
voilà.
Et notamment l'allemand.
Et pour cela aussi, nous accueillons aujourd'hui, pour toute l'année scolaire, deux volontaires de service civique européens allemands. D'origine allemande.
Et qui vont résider à Manosque.
Qui vont résider à Manosque dans une maison de la mairie. C'est géré par le service jeunesse avec nous, le comité de jumelage. Ils vont dans les écoles primaires, à la Pensonne et au Colombier, et aussi dans le collège Mondor.
On aura l'occasion d'en reparler très certainement, mais ça, c'est en dehors des correspondances. Pour l'instant, cette exposition, elle est visible à la salle Denis Valvérane. De quelle heure à quelle heure?
De 9h à 17h.
Et c'est tous les jours, bien sûr.
Les jours jusqu'à dimanche.
Jusqu'à dimanche. J'en profite aussi pour annoncer et rappeler la superbe exposition dans la Fondation Carzou de Hans Sylvester, avec notamment les images du tournage du Hussard sur le toit, le célèbre roman de Jean Giono, et Hans qui a suivi le film de Jean-Paul Rapneau en 93-94, et donc qui a fait des clichés magnifiques, et notamment des portraits de figurants. Jamais sur les plateaux cinéma on prend des portraits de figurants et on se rend compte que sur ce film Le Hussard sur le toit de Rapneau, eh bien il y a un casting qui a été fait magnifique et les photos de Hans relatent et bien sûr ce travail en plateau du cinéma. Alors bien sûr on voit Juliette Binoche, Isabelle Carré, Olivier Martinez, mais il y a aussi ces magnifiques figurants dont le nom ne figure pas lui au générique du film. Donc profitez-en, l'exposition de Hans Sylvester est visible jusqu'à la fin des correspondances, jusqu'à dimanche. Merci encore Sabine, à très bientôt.
Merci.
Alors avant de recevoir François Bonne qui a pris place dans nos studios, on lui a préparé une petite surprise. On a demandé à un de ses amis qui notamment hier a servi d'interface avec son public au Petit Ribier, on a demandé à Fanfi ce qu'il pensait de François Bonne.
Fanvi Penalva, qui c'est François Bonne pour vous ?
C'est d'abord un ami, mais c'est aussi une personne très pertinente et très aiguisée qui a débarqué un jour dans notre librairie, car quand il était à Manosque pour une résidence, il était voisin de notre librairie.
Et c'est là où vous avez lié un lien d'amitié avec un écrivain.
Oui, c'était notre premier écrivain. Je dis ça en plaisantant, mais en étant libraire, on est souvent de l'autre côté de la barrière. Et là, il y avait un écrivain qui débarquait dans notre librairie avec une bouteille de champagne pour faire connaissance.
Fanfi, un libraire, ça sait lire. Et vous avez lu, bien sûr, François Bonne.
Oui, presque tout. En tout cas, les romans déjà qu'il a écrits pendant que nous étions libraires. Et puis, son dernier qui vient de sortir aux éditions Albé Michel.
Alors justement, qu'est-ce que vous en pensez de Calamity Gwen ?
Alors, vous avez failli dire Calamity Jane, oui. Et le lapsus est juste parce que son héroïne est une femme à poigne, une femme hors norme, borderline, qui se raconte dans un journal très fantasque.
Avec aussi d'autres personnages qui vont rajouter à ce côté fantasque.
Oui, d'autres personnages, toute une ménagerie, entre guillemets, presque une petite cour des miracles dans ce quartier de Pigalle où Calamity Gwen travaille de nuit dans un sex shop.
Qu'est-ce qui vous a pris tout d'un coup de vouloir faire un acte presque de journalisme ou en tout cas d'animateur littéraire en recevant François Bonne pour parler de son livre ?
Tout d'abord, c'était tellement agréable de savoir que François revenait à Manosque et que, en fait, par ce biais-là, un peu égoïstement, on allait pouvoir se retrouver et se retrouver en public à la manière des correspondances, mais dans un lieu un peu différent, un peu à côté. Et je trouvais ça intéressant que François Bonne se retrouve chez nous, à Volx, dans l'écomusée de l'Olivier, au Petit Ribier, notre bistrot.
Comment est-ce que vous avez préparé cette rencontre ?
Ça a été compliqué et difficile puisque donc maintenant nous ne sommes plus libraires, nous sommes restaurateurs et cuisiniers. Donc on travaille bien sûr toute la semaine et les moments de lecture sont comptés. Et ben j'ai lu la nuit beaucoup, le soir tard dans des petits trous, dans des petits moments entre deux. Mais ça n'a pas été très compliqué car c'est un livre qui se dévore tellement il est plein de malice, d'humour et en même temps de vérité poignante.
Vous avez la littérature dans le sang, Fanfi. Est-ce que vous avez lu d'autres romans des auteurs qui sont invités aux correspondances ?
Non. Par contre, je suis de très près à l'actualité littéraire et il y a plein de choses que je compte acheter pendant ce festival, comme beaucoup de festivaliers finalement, pour pouvoir les lire cet hiver quand, je l'espère, ça sera un petit peu plus calme au niveau du restaurant. Notamment, j'ai bien envie de lire Comédie française d'Éric Reynard que j'ai entendu sur une autre radio, concurrente de la vôtre, je pense, France Inter.
Et qui, c'est une radio publique.
Oui, je sais. Et qui m'a donné vraiment envie de... Non, j'avais adoré Cendrillon quand nous étions libraires et j'ai vraiment envie de lire celui-là et d'autres encore. Et j'espère que François pourra me conseiller parce qu'il est un peu plus au fait de la rentrée littéraire que nous.
C'est un auteur connu et reconnu, notamment à Manosque, où il a effectué une résidence marquante. François Bonne a écrit des histoires vraies à usage radiophonique, ce qui nous intéresse au premier chef. Et parallèlement, il produit une œuvre de fiction puissante et appréciée. C'est de Calamity Gwen dont nous allons parler avec lui. Bonjour François Bonne.
Bonjour.
Alors, première question, évidemment, ravi de retrouver Manosque ?
Bah, ravi, oui, évidemment. Moi, à chaque fois que je viens à Manosque, ça me fait une... Ouais, ça fait une petite madeleine, quoi. Et puis, ravi de retrouver Fanfi aussi, et Véro, évidemment, hier, et de découvrir leur magnifique lieu, quoi, à Volx, dans ce musée de l'Olivret, là. Et, ouais, c'est magnifique ce qu'ils ont fait là-haut, quoi.
Comment est-ce qu'ils vous ont reçu? Ça a été haut en termes de littérature, ou c'était trop intime? Comment ça s'est passé?
Ah, c'était dans la convivialité, comme ils savent si bien faire, quoi. Et c'était, on s'est retrouvé à une quarantaine, à discuter donc, à parler de Gwen et de littérature en général avec donc le public. C'était une discussion ouverte, hein, assez longue. Et puis ensuite, on a mangé tous ensemble dans ce musée, au milieu de tous ces objets magnifiques. Et c'était une très bonne soirée, qui a fini tard d'ailleurs. Et on a fait pas mal de mises à jour avec Fanfi et Véro, parce que ça faisait un moment qu'on s'était pas vu, et puis on a des enfants qui se connaissent aussi, donc voilà, on s'est retrouvés, et puis retrouver aussi tous les amis de Manosque, Robert qui m'a amené sa petite bouteille de Genépi, comme d'habitude, j'ai eu Nicole aussi qui est venue me voir, voilà, tous les amis, j'ai pas vu Marie-Christine encore, c'est bizarre, mais je compte bien la voir aujourd'hui, et de retrouver les amis, et de retrouver Fréquence Mistral, parce que ça fait un moment qu'on se connaît aussi.
Oui, c'est vrai aussi.
Ça me fait bien plaisir.
Et puis, nous pareil, parce qu'on vous suit, François, depuis un certain moment, évidemment. Je le disais tout à l'heure, ces histoires vraies, à caractère radiophonique, un but, en tout cas, radiophonique, que vous poursuivez, d'ailleurs, sur Marseille. Et c'est une bonne chose. Alors, ça a servi un petit peu de socle à votre œuvre, ces rencontres particulières, ces histoires vraies.
Ben, il se trouve que oui, parce que je fais souvent des résidences d'écriture, et ces résidences d'écriture fonctionnent toujours de la même manière à découvrir un territoire. Ça pouvait être la Méditerranée, la première fois entre 2011 et 2013, où je suis parti faire ce voyage à collecter les histoires. Mais ensuite, j'ai fait ça en Vendée, j'ai fait ça dans l'Ain, à Belay, j'ai fait ça dans une ZUP à Chambéry, qui s'appelle Chambéry-le-Haut. On a fait un bouquin qui s'appelle Dans ma ZUP, qui raconte des histoires, en gros, de la banlieue de nos cités, mais ordinaires. Pas forcément de ce qui fait l'événement dans les journaux, mais plutôt des gens ordinaires qui habitent en banlieue aujourd'hui voilà.
La vraie vie pour des vraies histoires, quoi.
Ouais, d'essayer de remettre un peu de réalité. C'est ce que le journalisme a vocation à traiter des événements, donc des conflits, des problèmes. La littérature a vocation, il me semble, à raconter tout le reste, c'est-à-dire l'ordinaire de la vie.
Si vous me permettez, je peux rajouter aussi que le journaliste a un caractère aussi forcément livré à la marchandisation. Il est obligé de vendre ce qu'il a écrit, peut-être beaucoup plus qu'un auteur qui, lui, va être dans la fiction et dans un domaine très différent, c'est-à-dire une belle photo, une belle une, accrocheuse, avec si possible du sexe, de l'argent, etc., etc. Eh bien, c'est bon coco, ça. Donc, voilà, je ferme la parenthèse.
Ouais, mais ça marche aussi pour les auteurs.
C'est vrai aussi. C'est vrai aussi.
Du sexe, de l'argent. Mais c'est pas tellement, je pense, le côté commercial de la chose, puisque la littérature produit des objets commerciaux, mais c'est la temporalité. Le journaliste, il doit répondre à des événements, à une actualité, alors qu'il me semble que la littérature, elle se fonde sur l'inactuel.
Alors justement, avant de parler peut-être de Gwen, François, est-ce que vous avez lu le dernier livre d'Alice Zeniter, Comme un empire dans un empire ?
Et non.
Non. Et celui de Pierre Ducrozet, Le Grand Vertige.
Non.
Quel dommage, parce que justement,
j'ai lu Black Manou de Gauze, et c'est
moi,
magnifique.
Moi, j'ai pas lu. Donc ça va.
Je vous le conseille.
Mais par contre, les deux livres que je viens de citer sont justement, ce sont des objets littéraires de grand talent, puisque les auteurs sont de grand talent, mais surtout avec un pied dans l'actualité, aussi bien sur la mondialisation que sur l'ubérisation en fait de notre société. Donc, ce sont deux auteurs qui sont marquants parce que on entre de plein pied dans une réalité actuelle et factuelle qui devrait intéresser d'ailleurs, je pense, la presse, et ils sont tous les deux bien placés pour des prix littéraires, sauf un pour Alice Zeniter, et ça énerve beaucoup de personnes, notamment ici même. Vous avez une personne en face de vous qui est énervée parce que bon, elle a eu l'année dernière le Goncourt des lycéens. Et elle ne fait même pas partie, avec ce magnifique livre, de la sélection du Goncourt. Bon, c'est un petit peu dommage, mais enfin bon, on ne va pas s'épiloguer sur les prix littéraires, parce que j'ai déjà fait une intervention là-dessus. Ça suffit. Calamity Gwen, donc, Calamity Gwen, c'est paru chez, aidez-moi François.
Albin Michel,
voilà, je savais bien. C'est le journal intime de Gwen, qui est une jeune femme qui nous fait partager son quotidien, ses problèmes, ses amours et ses mouvements. On va évoquer ses choix avec François Bonne, pourquoi la forme du journal, comment s'est-il glissé dans la peau d'une femme. Ouvrons son roman. Quelle meilleure place pour explorer l'âme humaine qu'un sex shop? C'est dans un établissement de ce type à Pigalle que travaille Gwen, une jeune femme qui se rêve actrice. Ce roman est le journal intime de Gwen. On y croise le patron du sex shop, les clients, un peintre pour qui elle pose. On y suit ses amours aussi, ses galères, une vie de baise et de défonce, en dépendance d'hommes plus ou moins louches. Mousse, Blaise, Luc et les autres qui utilisent Gwen pour leur plaisir et leur confort. François, c'est une immense galerie où l'on ne trouve pratiquement que des hommes. Pourquoi ?
Ah, il n'y a pas que des hommes dans le livre. J'avais pas du tout pensé à ça comme ça. Pour moi, c'est le portrait d'une femme. C'est la première fois que je me permets de faire... Moi, je fais que des portraits de gens, hein, depuis Un homme louche. Tous mes livres sont des portraits à la première personne d'un personnage qui se raconte. Et c'est la première fois que je fais une femme. Donc pour moi, c'était...
Comment on entre dans la peau d'une femme ? Comment ça se passe ?
On essaye. Maintenant que j'ai la quarantaine, je me suis dit, je vais me permettre. Je vais essayer de devenir une femme et d'entrer en empathie avec une femme. Et ça a été vraiment très intéressant, hein. Je ne savais pas du tout comment ça marchait, mais j'ai découvert plein de choses.
Vous avez eu des réactions de lectrices par rapport à Calamity Gwen ?
Oui, bah, j'ai été très aidé puisque j'ai deux éditrices sur le livre. Il y a donc Elisabeth Samama et Véronique Ovaldé qui m'ont aidé à écrire le livre, qui m'ont fait leur retour. Et puis j'ai des amis, il y a le modèle vivant déjà, Rosène, qui est la personne dont je me suis inspiré pour imaginer Gwen. Et puis Angela Flau, par exemple, une amie qui m'a fait ses retours, et Judith Meyer, à qui je fais lire tous mes livres et qui me fait aussi d'autres retours. On s'est retrouvés par exemple tous les quatre à relire tout le livre une journée, et parce que je voulais avoir le regard de lectrice mais aussi de femme sur est-ce que c'est juste, est-ce que j'ai le droit de dire ça, est-ce que ça sonne pas un peu décalé, est-ce que je me rends compte, il y a des choses peut-être je me rends pas compte. Je parle des règles, par exemple. Comme vous le savez, jamais eu moi mes règles, et c'est quelque chose que je ne connaissais pas intimement, et donc il a fallu que je comprenne qu'est-ce que c'est avoir ces règles. C'est pas rien. C'est un cycle qui détermine les choses. C'est un exemple, hein, c'est un exemple assez évident. Mais même dans la manière de penser le monde, de le raconter, de comment on dit les choses, il fallait que je sois très attentif à ce que ça sonne juste, bien sûr.
Et parmi les hommes, François, du roman là, qui croise la route de Gwen, il y a par exemple René Connard.
Oui, bah, hein, c'est le patron.
C'est le patron, donc il mérite bien son surnom.
C'est René, quoi.
Voilà. Ouais. Et puis il y a aussi, il y a tous ses amants, évidemment, Luc, Mousse, Blaise, etc. Et puis il y a aussi ce peintre qui va la former, et elle-même va se mettre à peindre. Donc il y a des gens qui l'accompagnent dans une démarche initiatique. Il n'y a pas uniquement des profiteurs.
Non, et elle n'a pas... Par exemple, Luc, oui, profite d'elle, bien sûr, mais aussi elle profite de lui, parce qu'elle se rêve d'être star, elle se rêve d'être Isabelle Huppert, elle est dans tout un délire sur aller monter à la grande ville. Elle arrive d'Istres, hein. Elle arrive d'Istres, elle a fait son adolescence à Marseille, et elle rêve de cinéma. Et elle part à la grande ville pour y arriver, pour faire... voilà, c'est le rêve très 19e, hein, de monter à Paris et de tenter de percer, quoi. Et elle a du mal, et c'est pas évident, et elle se retrouve au milieu de cette grande ville qui des fois la dépasse, mais qui l'attire aussi dans ses paillettes, dans son star system, et voilà, elle s'imagine quelque chose en permanence, arrive plus ou moins, quoi.
Elle se rêve effectivement en Isabelle Huppert, mais c'est vrai qu'elle a un rapport magnifique avec le 7e art, parce que enfant, sa mère la colle au cinéma un petit peu pour se débarrasser d'elle, et elle y voit plein de films qui ne sont pas tout à fait de son âge, et ça la forge, en fait. Sa vie est remplie de clichés cinoches, plutôt ciné d'auteur d'ailleurs, et des acteurs et actrices, vous l'avez dit, la voix de Jean-Pierre Mariel, les yeux d'Isabelle Huppert, tout ça, ça la marque. C'est un peu le rôle aussi du cinéma, de nous faire rêver, voire de nous faire fantasmer.
Oui, c'est vraiment... Et puis, c'est même... avant même sa mère, sa grand-mère. Donc, c'est un rêve de femme et de famille, ce qu'elle essaye de, d'aboutir dans sa vie. C'est sa grand-mère qui voulait être actrice, qui se faisait garder, justement, par le cinéma populaire du coin, près du boulevard Richard Lenoir, donc une Parisienne qui avait été mise là chez ses oncles et tantes, et qui voilà, il n'y avait pas la télé à l'époque, on mettait les enfants au cinéma pour les garder toute la journée. Et ça, c'est donc c'est déjà le rêve de la grand-mère qui est passé à la mère, qui est ensuite passé à Gwen. Et donc Gwen qui incarne ce fantasme de devenir une star de cinéma. Ouais.
Alors il lui arrive beaucoup de choses à Gwen, hein, et puis en fonction des rencontres et des hommes dans les bras desquels elle va tomber, des gens plus ou moins sympathiques, plus ou moins louches. Ça dépend. Et tout d'un coup, elle se dit, à un moment, elle va tomber sur un homme, je crois que c'est Mousse, le dernier, et elle se dit, bon, peut-être que je vais rester là. Peut-être que c'est la fin de votre livre. C'est l'une des dernières phrases qui dit, tout compte fait, je suis bien ici. Elle pose ses valises.
Oh, je suis pas sûr que ça marche, à mon
oui,
avis, mais bon...
ça va marcher un moment, peut-être.
On verra, mais oui, ça, c'est un journal, hein, c'est un journal qui est écrit... le genre du journal, la forme, me semblait intéressant pour parler de Gwen, pour qu'elle parle d'elle-même, parce qu'elle écrit dans une forme de nécessité, dans un besoin de se dire... dans une urgence, dans l'urgence du journal. Chaque jour, elle tient son journal de bord plus que son journal intime pour essayer de comprendre, de mettre des mots sur ce qu'elle vit, parce qu'elle vit aussi dans une forme de souffrance, et dans cette violence aussi de ce quartier de Pigalle. Quand tu es une belle femme et qu'il y a tous ces hommes prédateurs autour, qu'elle se vit dans la souffrance aussi de une lutte des classes aussi, puisqu'elle arrive, elle, de son milieu très populaire, dans cette ville pleine de richesses, mais qui ne sont jamais pour elle, quoi. Et donc, elle est en lutte, elle tente, elle essaye des choses, c'est ça qui est émouvant, je pense qu'elle est très... Moi, elle m'émeut beaucoup.
Moi aussi.
Elle est touchante, elle essaye des choses, elle se rate, mais elle essaye. Elle est dans la vie quand même.
Et je pense qu'il y a beaucoup de Gwen, malheureusement, dans nos sociétés actuelles, qui se rêvent et puis qui n'arrivent pas à se réaliser, qui sont parfois à la merci de quelques salopards qui eux ont pignon sur rue, hein, évidemment. François, on va parler du style un petit peu, parce que votre livre il est marqué par le style François Bonne, bien sûr. Alors, par exemple, moi j'ai noté le nom des mois qui sont pastichés. Septembre devient sextembre, puis après on suit le calendrier, hein, c'est opprobre, navrante, décevante, j'en veux, fiévreuse, j'ai du mal à prononcer, marasse, etc. Et puis à la fin, un happy end, ou une respire, comme vous voulez, c'est sextembre qui devient s'entendre. Là, il y a de la musique dans, et puis ça veut dire des choses. Fiéveux à la place de février. Comment vous est venue cette idée de pasticher les mois de notre calendrier?
Ouais, même je rajoute, donc c'est sextembre, et puis il y a en exergue ce mois où les gens l'appellent, mais l'idole des jeunes, par exemple. Moi ça me fait rire déjà, donc ça me fait plaisir. Mais je pense que c'est un livre assez drôle. Avec la gouaille de Gwen, c'est un livre qui se lirait idéalement avec l'accent aussi. Hein. Gwen, c'est un boucan, quoi. C'est le boucan marseillais classique. C'est pas une cagole, parce que elle est pas.
Elle aurait pu.
Mais voilà, il y a ce côté-là, il y a ce côté grande gueule qui s'exprime, quoi, qui dit tout, qui est ouverte et qui prend la parole et donc il y a un style et un humour, moi je dirais ouais une gouaille, un humour à la fois dans l'autodérision vis-à-vis d'elle-même mais aussi un regard à la fois drôle et tragique sur le monde qui est typique. Moi ça fait 8 ans que j'habite Marseille Et je, voilà, j'ai ce plaisir.
Vous en avez rencontré des Gwen?
Ouais, ouais, j'en ai rencontré plein. Et puis j'ai rencontré Rosen, qui, moi je suis parti des dizaines d'heures d'entretien. Rosen, ça fait 6 ans que je l'interviewe. Elle m'a aussi confié ses journaux intimes, ses cahiers. Et je suis parti vraiment de tout ce qu'elle m'a raconté et de toutes ces histoires farfelues qu'après j'ai réécrit, que j'ai déformé. Il y a des choses, bien plein de choses que je lui fais dire qu'elle ne m'a pas dit. Mais j'ai essayé en fidélité avec sa personne, cette manière de parler du monde qui moi m'a fasciné chez Rosen. Le modèle vivant de Gwen.
Alors pourquoi aussi ce nom de Calamity? Que vient faire Martha Canary dans cette histoire?
Eh ben, elle en parle en fait dans le livre, et donc Gwen est tombée sur le journal de Calamity Jane et qu'elle a dévoré et qu'elle a trouvé magnifique. Et c'est vrai que ça, voilà, c'était, on a cherché un titre et on s'est dit que c'était Calamity Gwen, quoi. C'était bien elle. C'était une manière de... Puisque c'est un portrait, je trouvais que c'était important qu'il y ait le nom de Gwen dans le titre. Comme il y avait Une vie de Gérard en Occident, qui a été écrit de la même manière, qui était un portrait d'un ouvrier de campagne en Vendée, ce Gérard-là, que j'ai d'ailleurs écrit à partir d'un modèle vivant qui était Bernard, qui était un ami que j'avais rencontré et que j'avais interviewé de la même manière très longuement, qui était comme le socle de ce livre. Et là, Rosen, elle me l'a raconté, comment elle aimait ce personnage de Calamity Jane et comment ce journal lui avait plu. Et voilà, c'est comme ça qu'on a décidé avec Véronique Ovaldé et avec Elisabeth Samama du titre.
Un beau titre, Calamity Gwen. Et contrairement à ce que pense Fanfi, je fais pas de lapsus là-dessus. Attention, hein. Je ne mélange pas les deux personnages qui sont aussi magnifiques l'une que l'autre d'ailleurs. Juste pour finir cet entretien sur votre livre, après on va parler de votre activité. François, j'ai deux phrases que j'ai notées qui sont croustillantes, où on sent bien le style de François Beaune. Les Italiens, même jeunes, ils mangent comme si leur mère les surveillait. Ça, c'est pas mal quand même, c'est bien vu, c'est bien vu. Et puis la deuxième, alors là, elle est magnifique. Si j'étais léopard, je mettrais des strings en peau de pute. Alors ça aussi, c'est du François Beaune dans le texte, évidemment. Vous aimez jouer avec les mots, François?
Ben, j'essaye pour chaque livre de trouver le style du personnage. Donc chaque livre doit être écrit dans un style différent. Mais évidemment, il y a un peu de moi dans chacun des livres et dans chacun des personnages. Mais à chaque fois, tout le défi, c'est d'arriver à trouver le style qui va convenir, c'est-à-dire la musique des mots pour qu'on arrive à croire qu'il y a quelqu'un qui nous parle à l'oreille alors qu'on est en train de lire. Et c'est ça tout le travail du style.
Et c'est la magie de la lecture aussi, tout simplement, de pouvoir suivre Angelo Pardi quand il fait ses aventures, ou de suivre un homme louche, par exemple, aussi, rester un peu à distance quand même, on sait jamais, ou de suivre et d'applaudir aux tergiversations de Gwen. François Beaune, votre actualité, évidemment, c'est votre livre chez Albin Michel. Vous avez un livre aussi ou quelque chose en préparation?
Oui, plusieurs en fait, mais donc il va y avoir un livre qui sera une sorte de portrait des habitants de Tunis. J'ai passé beaucoup de temps à Tunis récemment, dans les 3-4 dernières années, avec un illustrateur égyptien, Mohamed Chenaoui, qui est le rédacteur en chef de cette revue qui s'appelle Tok Tok au Caire, qui a vraiment amené un renouveau de la bande dessinée dans le monde arabe, en Égypte en particulier, mais après que ça a résonné avec les illustrateurs au Liban et puis dans le Maghreb. Donc Chenaoui, il est venu avec moi, on a passé du temps à rencontrer les Tunisois, et donc on va tenter de restituer ça au public sous la forme d'un livre illustré. Donc, ce ne sera pas une BD, ce sera Un roman graphique.
Tout à fait. Voilà. Pas un roman, enfin, en tout cas, quelque chose de très bonien dans l'approche, en quelque sorte. Donc, on attend ça avec impatience aussi. Et vous êtes dans le cadre des correspondances, mais je crois que vous avez fini votre tour de piste aux correspondances.
Oui, on a fait la rencontre hier à Volx avec. Voilà. Et puis l'autre rencontre, c'était juste avant sur la place Marcel Pagnol avec l'écrivain Éric Laurent.
Oui, c'était une rencontre intéressante avec un contraste entre les deux écrivains, à la fois sur l'écriture et l'approche.
Ouais. C'était très opposé. Ouais. Quand j'ai lu son livre, c'était intéressant de voir comment lui propose de raconter les choses à la troisième personne, de loin, de créer un stéréotype de femme, la pin-up, quoi. C'est tout à fait opposé à ma manière de faire. C'était intéressant pour ça de
confronter les deux.
De regarder en miroir les deux livres, ouais.
Sinon, les auteurs qui sont programmés, il y a vous avez des préférences, des coups de cœur éventuellement.
Le seul que j'ai lu.
On va pas faire de jaloux, hein, mais attention.
Non, mais je peux dire que le seul que j'ai lu, c'est Black Manou de Gauze.
Ouais.
Je le conseille, ouais. C'est vraiment extrêmement intéressant pour découvrir, en particulier la communauté africaine, vivant à Paris, et on en rentre dans l'intimité de cette communauté qu'on connaît pas forcément si on n'a pas d'amis dans la communauté africaine et donc j'ai trouvé ça passionnant, puis c'est toujours avec son style très synthétique, très haché comme ça là, il y a le parler africain, quoi, il y a le travail sur le français. Il faut imaginer que la littérature française, elle va être africaine en grande partie dans les années à venir, hein. Les 9/10 des francophones vont habiter en Afrique très bientôt, et donc on va avoir une littérature qui va être qui va se changer de ça et qui va s'enrichir. Qui va s'enrichir, et j'ai presque hâte d'y être, parce qu'on va avoir un français qui va se renouveler dans ses images, dans ses mots, dans ses expressions, ses métaphores, et on a la chance d'avoir une langue française qui est utilisée par des gens du monde entier et qui pendant le confinement là, j'ai lu Texaco de Patrick Chamoiseau. C'est un travail entre le créole, le martiniquais, le français, qui nous renouvelle notre langue, comme Céline avait renouvelé la langue quand il avait écrit Le Voyage et Mort à Crédit. Donc le travail de la langue, il est essentiel pour qu'une langue ne meure pas. Et aujourd'hui, il y a des auteurs africains qui nous permettent de redécouvrir la langue française et de lui redonner vie, quoi.
Et c'est l'intérêt de la francophonie également. Dernier élément de notre discussion, François, vous avez des relations avec des anciens résidents de Manosque qui sont passés ici. Je pense à Lise Niter, Pierre Ducrozet, Miguel Bonnefoy. Non, vous.
Je les connais pas, en fait. On se croise, hein, mais on se connaît
pas.
Parce
que vous avez la même aventure entre guillemets, avec le même rapport avec cette ville particulière, qui est la ville de Jean Giono, quand même.
Bien sûr, mais c'est entre auteurs. On se connaît pas forcément, des fois on se croise, mais j'ai pas eu l'occasion, par exemple, de leur parler.
Bon, on va dire, je les aime beaucoup,
quand je les vois, c'est des gens charmants. Alice, comme Miguel, Pierre, on avait chanté Love Me Tender à Marseille ensemble, quand même. Donc,
ça aurait plu à Constance Debray, parce que c'est le titre de son livre, son dernier livre.
D'accord.
Donc Love Me Tender.
Okay. Ouais. Mais on se connaît comme ça. Voilà, je peux pas. C'est marrant. J'ai pas tant d'amis écrivains que ça.
C'est bien, restez dans la sphère fanfille et tout le reste, donc ça va. Merci beaucoup, François Bonne, et puis bon festival, et puis à très bientôt. Vous savez qu'on vous suit du coin de l'œil, hein, quand même, donc, et on vous lit avec un plaisir et un bonheur infini.
C'est gentil.
Merci, à bientôt.
Merci.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Olivier, merci aussi pour la régie. On se retrouve demain pour une belle émission consacrée aux correspondances, toujours à 11h, et évidemment, on va parler littérature et un petit peu musique aussi, je crois savoir. Merci Olivier, bonne journée.
À demain François.
êtes sur Fréquence Mistral.